Les disciples s'interrogeaient, mais qui est donc cet homme à qui même le vent et la mer obéissent ? Oui, Jésus est unique. Qui est-il ? Dans 1 Timothée 2, versets 5 et 6, nous pouvons lire « Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. » Alors comment dire en quelques mots comment Jésus est unique ? Alors le point de départ, ce ne sera pas une argumentation, ni une polémique, ni même une analyse théologique. Le point de départ, c'est une rencontre, une découverte. C'est en découvrant Jésus qu'on le découvre comme celui qui est unique. « Venez et voyez », c'est déjà ce que disait Jésus quand on l'interrogeait, et ses disciples, après lui aussi. Aujourd'hui, nous voyons Jésus dans les écrits des apôtres. Les apôtres sont des témoins qui disent et redisent l'histoire. Ils nous dépeignent Jésus-Christ de telle sorte que sa personne et son œuvre parlent d'elles-mêmes. Et c'est aussi ce que nous sommes appelés à faire en tant que disciples, dépeindre, faire connaître, décrire, inviter à découvrir le Seigneur Jésus. Il y a quelques dizaines d'années, il existait un petit tract avec un texte absolument admirable sur Jésus, et son titre était « Le Christ incomparable ». On trouve aujourd'hui sur Internet des adaptations de ce texte, et je vous en livre maintenant une. C'est une des manières dont on peut tenter de dépeindre Jésus l'unique. Il est venu de Dieu, il est né d'une simple femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison. Aucun savant sous le ciel n'en a jamais pénétré le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté, grandi dans l'obscurité. Sa famille était sans fortune et sans influence. Pourtant, petit enfant, il a été sujet de terreur pour un roi. Jeune garçon, il a étonné et embarrassé les spécialistes de la loi de Dieu. Homme, il a commandé à la nature, marché sur les eaux, apaisé les flots, rendu la santé à des multitudes, ressuscité des morts par sa parole. Il n'a jamais écrit de livre, et pourtant aucune bibliothèque ne pourra contenir les ouvrages dont il est le sujet. Il n'a pas fondé d'école. Pourtant, toutes les universités du monde ne pourront jamais se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais exercé la médecine, mais qui donc pourrait dire le nombre de cœurs et de corps brisés par la souffrance et guéris par lui ? Il a changé son vêtement royal pour la tenue de l'humble artisan. Par amour pour nous, il s'est fait pauvre, et combien ? Il a dormi dans la crèche d'un autre. Il a traversé le lac de Génézareth dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée à Jérusalem sur l'âne d'un autre. Il a été enseveli dans la tombe d'un autre. Il est le Christ incomparable et admirable, annoncé par la voix des prophètes des temps anciens. Sur la croix, il meurt d'une mort infâme, lui juste pour des injustes. Il meurt condamné pour que nous soyons libérés de toute condamnation. Il triomphe de la mort et ouvre le chemin de la vie éternelle. Aujourd'hui encore, il est vivant. Il nous aime et nous appelle. Patiemment, sur les sentiers où nous marchons, son cœur fidèle nous cherche. Aujourd'hui, il voudrait nous entendre l'appeler « mon Sauveur et mon Dieu ». Voici le texte donc, de ce traité, le Christ incomparable, une magnifique façon de décrire Jésus-Christ comme étant l'unique. Je me souviens avoir lu aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, un court texte, et il était question de Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte, qui s'étonnait de l'influence qu'avait Jésus-Christ. Il disait, mais moi je peux conduire des hommes à la guerre, mais il faut que je sois là, avec ma voix, que je les motive. Et il s'étonnait que 2000 ans après, bon c'était 1800 ans après, au temps de Napoléon, des hommes étaient prêts à mourir encore pour Jésus. Et il l'a écrit lui-même. Qui est-il vraiment ? Ce Jésus qui a grandi, qui a exercé son ministère, qui est mort sous Ponce Pilate avant d'apparaître vivant, triomphant de la mort. Le portrait que nous en fait le Nouveau Testament est d'abord celui d'un homme bien réel. Il est né d'une femme, comme tout autre enfant. Il a grandi, il a mûri, il a eu faim et soif, il s'est fatigué, il a travaillé, il s'est réjoui et il a même pleuré. Il a connu des émotions réelles et des réactions humaines. Il a redouté les difficultés. Il a eu besoin de la communion avec son Père, du secours de l'Esprit-Saint, de l'éclairage de l'Écriture pour mener à bien sa vie personnelle et son ministère. Quand on regarde l'ensemble de sa vie, on voit non seulement qu'il était un homme, un vrai, mais on voit aussi chez lui un visage magnifique de l'humanité. Un homme qui était rempli d'amour pour Dieu et pour les autres hommes. Une humanité généreuse, sensible, disponible, ouverte, droite, heureuse en Dieu et parmi les humains, qui ne cède jamais au mal, à ses bassesses, à ses détours et à ses coups tordus. Pendant la vie de Jésus, cette belle humanité est le trait principal qui a frappé chez lui. Pourtant, dans certaines de ses paroles et de ses actes, Jésus laisse entrevoir un mystère bien plus profond encore. Il parle de sa relation avec son Père comme une relation particulière. Il dit agir comme Dieu. Il fait des choses que seulement Dieu a le droit de faire, comme pardonner les péchés. Il dit connaître le Père et être connu de lui, dans une réciprocité totale. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus affirme révéler le Père de façon tout à fait unique, et il dira même « Qui m'a vu a vu le Père ». Il met avec autorité sa parole sur le même plan que la parole donnée par Dieu à Moïse. Il dit que ses paroles subsisteront même si le ciel et la terre passaient. Il se présente enfin comme celui qui jugera les nations au dernier jour. Il va s'appliquer tout au long de son ministère des titres et des images qui généralement désignent Dieu dans l'Ancien Testament, le berger, l'époux, le roi, le Seigneur. Cela fait beaucoup quand même. Et pourtant, lorsque nous lisons les évangiles, ça sonne juste. Jamais Jésus, en disant cela, ne fanfaronne. Certains s'opposent et vont dire « il se fait l'égal de Dieu ». Mais ils sont témoins des miracles que Jésus accomplit. La plupart sont impressionnés par la vérité de Jésus, dans sa personne et sa manière d'être. La lumière viendra d'où on ne l'attendait pas. Jésus meurt d'une mort injuste qui semble devoir enterrer définitivement toute prétention. Son attitude dans ses souffrances et sa passion, encore une fois, force l'admiration. Mais le constat de la mort est là, ce constat qui semble définitif. Mais au matin du troisième jour, c'est pourtant le grand bouleversement, le grand renversement. Jésus se relève d'entre les morts, il est vivant. Il a triomphé de la mort et il l'atteste à maintes reprises. Il se montre à ses disciples. Et puis ensuite, ses disciples le voient non pas mourir à nouveau, mais s'en aller au ciel, s'élever au ciel. Et du ciel, il continue d'agir. Il envoie l'Esprit, il soutient les siens, il change des vies. Alors bien sûr, tout cela impose une autre lecture de sa vie, de sa personne. Jésus, oui, était un homme. Ce Jésus si authentiquement humain était aussi bien plus qu'un homme. Ce qu'il laissait entendre devient une vérité que l'on ne peut plus contester. Car le Père n'aurait jamais authentifié en le ressuscitant un charlatan, quelqu'un qui aurait bluffé durant toute sa vie. Jésus est bien ce qu'il disait. Il est l'envoyé de Dieu qui vient du ciel. Je vous renvoie à cette petite formule aussi que Jésus utilise de nombre de fois. Je suis venu. Dieu lui-même vient vers nous. Dieu qui nous aime, Dieu qui nous rejoint, Dieu qui nous ouvre un chemin de réconciliation avec lui-même par Jésus-Christ. Et Dieu s'est abaissé pour cela, mais il a été élevé après sa résurrection et son ascension. Il est désormais le Seigneur. L'apôtre Paul d'ailleurs dit « Ils ont crucifié le Seigneur de gloire ». Aujourd'hui, nous invoquons son nom. Le Père et notre Seigneur Jésus-Christ sont mis sur le même plan. On discerne en Jésus-Christ celui qui est la parole, celui qui est la sagesse de Dieu, le Créateur de toutes choses. On l'identifie avec cette parole de l'apôtre Jean qui était au commencement, qui était éternellement avec Dieu et qui était Dieu. En Christ habite corporellement la plénitude de la divinité, nous dit l'apôtre Paul. Celui qui était la parole éternelle de Dieu a été fait chair, a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, nous dit le disciple Jean. Notons que ce sont des Juifs qui écrivent cela, des Juifs qui avaient appris dès leur plus tendre enfance et confessé que l'Éternel, notre Seigneur, est un, il est l'unique Seigneur. Ce sont des Juifs qui ont écrit le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens, assistés par l'Esprit Saint, ont discerné en Jésus, par ses paroles, sa vie et sa résurrection, la divinité du Fils de Dieu. Dieu est unique, mais cette unicité est riche de diversité, de communion. C'est une unité. Triunité. De toute éternité, le Dieu un et unique est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Celui qui est en Dieu de toute éternité, le Fils éternel, la parole éternelle, peut s'abaisser et entrer par amour dans les limites de notre humanité pour nous révéler le vrai visage de Dieu et nous sauver. Comment alors dire ces deux réalités, à la fois la pleine humanité de Jésus et en même temps sa divinité, que exprimée dans les textes par ses disciples? Alors les théologiens ont cherché un langage qui permet d'expliquer cela, et ils parlent de nature divine et de personne. Nous possédons tous pleinement la nature humaine, mais chacun de nous fait vivre cette nature humaine d'une façon particulière. Et c'est ce que nous pouvons appeler la personne. Nous sommes des personnes, nous sommes des sujets. Nous pouvons dire « je pense ceci, je fais cela, je voudrais ceci ou cela ». Personne ne peut dire « je » à notre place. C'est « nous sommes des personnes ». Et nous faisons vivre cette nature humaine de façon unique, chacun et chacune d'entre nous. Eh bien, Jésus, lui, a deux natures. Il a à la fois cette nature divine, et en même temps, il a revêtu la nature humaine. Il était pleinement Dieu et pleinement homme. Des fois, on peut prendre l'image de quelqu'un qui aurait une double nationalité, italien et français. Eh bien, cette personne est 100% française et 100% italienne. Jésus-Christ est une seule personne, mais il a possède les deux natures. Et ces deux natures se sont manifestées en lui, donc justement dans l'unité d'une personne humaine. Cela veut dire que Jésus a eu des ressources potentielles qu'il n'a pas utilisées pendant son temps de vie sur la terre. Par exemple, son omniscience. Il ne fallait pas que la nature divine vienne noyer la nature humaine. Très probablement, la gloire de Dieu, le Fils, n'est pas apparue dans toute son éclatante beauté. Il y a un passage où le visage de Jésus rayonne lors de la transfiguration, mais dans le quotidien, cette gloire est voilée pour que nous puissions voir qui est Dieu sous un visage humain. Ces deux natures étaient là. Jésus lui-même en avait conscience, mais en tant que personne humaine, il n'y avait pas recours. Lorsqu'il faisait vivre les qualités morales qui sont celles de Dieu et sa perfection, c'est toujours dans son humanité aussi qu'il le fait. Jésus n'a pas triché. Et lorsque Jésus à la croix souffre, il souffre vraiment. Il souffre vraiment. Et c'est dans sa conscience personnelle qu'il pousse ce cri, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a là un mystère que l'on peut tenter d'approcher, mais qui reste un mystère. Et c'est ce mystère qui donne toute sa richesse à l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Parce que si on pouvait le mettre dans nos petites catégories, qu'on pouvait le comprendre complètement, ce serait bien un trop petit Dieu, si on pouvait le comprendre, s'il rentrait dans notre boîte crânienne. Mais non, il est Dieu fait homme, Dieu venu vers nous, et cela demeure un mystère. Quand on le voit humblement naître dans une étable, ce n'est pas simplement un bébé humain qui naît dans des conditions modestes, c'est Dieu lui-même qui s'abaisse jusque-là. Quand on le voit mourir pour nous à la croix, ce n'est pas juste un homme qui meurt pour d'autres, c'est Dieu lui-même qui prend sur lui le châtiment qui nous donne la paix. Le prophète Ésaïe nous disait déjà cela, des siècles avant la croix. Quand on pense à ce rôle de médiateur aussi, c'est lui qui fait parfaitement le pont entre l'humanité et Dieu, puisque dans sa personne même, il possède les deux natures, celle des hommes et celle de Dieu. Comment être plus proche? Et surtout, c'est Dieu qui fait le mouvement aussi vers l'homme. C'est pas à l'homme de s'autoproclamer Dieu. C'est Dieu qui vient à nous. Jésus, l'unique, c'est cela. C'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen.